Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, et pour fêter le 4e anniversaire, nous aurons King Quest 4, Dynamite Dux, Hugo 1 et 2, Pitfall, Nightmare Busters et la démo Amiga Animation du groupe Phenomena. Bienvenue sur Rétrovision. Ravi de vous retrouver sur Rétrovision pour une 5e saison, toujours 100% rétro gaming, avec pas de gros changements en ce qui concerne le contenu. Nous aurons fidèle au poste les musiques disques Amiga, la démo, les jeux d'aventure en guise d'ouverture, et c'est justement King Quest 4 qui entre en scène avec l'excellent The Peril of Rosalla, sorti en 1990 sur Amiga. Dans ce 4e épisode de la saga des King Quest, Sierra nous propose d'incarner une héroïne, Rosella de Daventry, partie à la recherche d'un antidote pour guérir son père, le roi Graham, atteint d'une terrible malédiction. C'est dans le monde merveilleux de Tamir que la scène prend place. Et l'auteur Roberta Williams ne se gêna pas pour faire de nombreuses références aux classiques de chez Disney, comme par exemple la Maison des Sept Nains. Au niveau des évolutions, on pourra noter l'apparition de scènes cinématiques, la possibilité de jouer à la souris, mais aussi les musiques qui exploitent les synthèses MIDI des cartes son sur PC, par exemple le MT32. Les actions à effectuer doivent encore se taper au clavier et en anglais, puisque c'est seulement à partir du 5 que l'on passera aux icônes pointées et cliquées avec une traduction française. King Quest 4 n'aura d'intérêt aujourd'hui qu'auprès des fans de la série, mais son côté féerique et enchanteur sera séduire celles et ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Si vous adorez les héros charismatiques avec une musculature abondante et bien huilée, eh bien il faudra repasser, car dans Dynamite Dux de Sega sorti en 1989, on vous propose d'incarner un palmipède. A la base, le héros était un humain et il avait même une petite amie. Mais une créature maléfique décida de l'enlever et de transformer notre gaillard en canard. Dynamite Dux se présente donc comme un beat'em up, jouable seul ou à deux, avec la possibilité de sauter et de donner des coups de poing plus ou moins puissants en fonction du temps de pression sur le bouton. Des armes sont généreusement distribuées tout au long des niveaux, comme des bombes, des bazookas, voire des cailloux. Et pour les adeptes d'hémoglobine et de torture ultime, des pistolets à eau sont aussi à leur disposition. Des boss, tous plus cartoonesques les uns que les autres, vous attendent à la fin de chaque stage, sans vous poser de réelles difficultés. Et c'est bien là le principal défaut du jeu, sa facilité engendre une durée de vie assez courte. Malgré tout, Dynamite Ducks est une aventure sympathique, mais c'est surtout un jeu mémorable rempli de magnifiques souvenirs. Jetons un petit coup d'œil à la version arcade sortie en 1988 sur le merveilleux système 16 de Sega. Évidemment, les changements par rapport à la Master System sont assez flagrants. Mais c'est surtout au niveau de la jouabilité que l'on ressent une grande différence. Dynamite Ducks est un beat'em up vraiment plaisant, varié, surtout grâce aux nombreuses options d'armement disséminées le long des niveaux. Ajoutez à cela une petite dose humoristique façon Sega, bien loin des délires complètement loufoques de Konami, pour ne citer que. Que vous soyez rétro gamer, rétro gameuse ou non, ce drôle de personnage doit sûrement vous dire quelque chose. Il s'agit d'Hugo, un gentil petit troll venu du Danemark, parti à la rescousse de sa bien-aimée Hugoline, détenue prisonnière par la sorcière Skila. L'origine exacte d'Hugo est assez difficile à retracer. Sa toute première apparition était sous la forme d'un petit jeu pour enfants sur la télé interactive danoise en 1990. Peu après, une conversion sur Amiga et PC fut programmée par l'équipe de Silver Rock Production sous le nom de Hugo Panay Eventyr. On pourrait associer le système de jeu à un STE, pour Slow Time Event. En effet, contrairement à un QTE, Quick Time Event, où il faut répondre au quart de tour, ici vous aurez largement le temps d'anticiper les actions. Durant les séquences, un nombre limité de touches s'offre à vous. Numérotées, elles se limitent à haut, bas, gauche, droite et saut. Il est possible d'utiliser le clavier ou le joystick. Les décors sont variés et très bien retranscrits. Forêt, caverne, chemin de fer, montagne, le dépaysement est garanti. Sa popularité étant ce qu'elle est, un jeu télévisé fut produit pour la télévision française sur FR3 au début des années 90. présentée en direct par Karen Cheryl, l'émission Hugo Délire proposait aux téléspectateurs de diriger le sympathique troll en utilisant les touches du téléphone. La personne sélectionnée courait la chance de gagner un voyage. On se regarde un petit extrait d'Hugo Délire.
Allô ?
Écharpe, faut pas s'enrhumer. Hugo, tu es prêt ? Karim aussi ? On y va !
Allez, mets ton bonnet, on monte.
Vous savez que il faut appuyer sur le 4 pour sauter sur les plateformes où se trouvent les sacs d'or. Le 4, c'est trop tard ! Aïe, aïe, aïe !
Comment ?
Je donne un coup de fil !
T'es prêt ? On grimpe.
Je vous avais dit que j'avais plus de mercurochrome. Le 4...
Pitfall sur ColecoVision, sorti en 1982, est un grand classique du jeu vidéo. Il est l'œuvre de David Crane, cofondateur de la société Activision. Vous dirigez Pitfall Harry, qui devra se frayer un chemin pour traverser une jungle inhospitalière jonchée de pièges et d'obstacles. Vous aurez exactement 20 minutes pour accomplir cette mission et en même temps récupérer les 32 trésors cachés. Véritable prodige pour l'époque, cette cartouche avait de quoi laisser bouche bée. Animation fluide, 255 tableaux fixes sur deux niveaux, le tout agrémenté de somptueux graphismes colorés. Évidemment, en y rejouant 30 ans après, on pourrait lui reprocher une jouabilité beaucoup trop rigide où certains sauts se négocient au pixel près. Mais preuve de sa grande notoriété, Pitfall fut adapté sur un nombre incalculable de plateformes, y compris les consoles nouvelle génération. La grande majorité des jeux présentés sur Retrovision ont toujours été commercialisés à un moment ou un autre. Mais certains d'entre eux n'ont pas eu cette chance. C'était le cas pour Nightmare Busters, qui aurait dû sortir en 1995 au grand désarroi de tous les possesseurs de la Super Nintendo. On vous propose d'incarner l'un des deux lépreux-chauds, Floyd ou Flynn, qui ont pour objectif d'anéantir la créature qui cause d'affreux cauchemars aux pauvres petits-enfants, un petit peu comme dans Weird Dreams sur Amiga. Le nom de ces petites créatures, issues du folklore irlandais, se prononce approximativement les Leprechaun en gaélique. Dès les premières secondes de la partie, on se sent tout de suite attiré par ce run and gun à l'action frénétique. We'll be right back. La maniabilité est excellente, les graphismes, malgré leur côté un peu lugubre, sont de toute beauté, même si aucun effet propre à la Super NES n'y est exploité. Les musiques, quant à elles, même si elles ne resteront pas des classiques, sont particulièrement envoûtantes et vous plongent encore plus dans cet univers fantastique. Nightmare Busters a la réputation d'avoir une difficulté excessive, mais heureusement, le système d'armement est plutôt efficace, puisque chaque léprechaud dispose d'une attaque primaire améliorable, un dash offensif et des super-attaques commutables selon vos besoins. Cette cartouche avait vraiment tout pour plaire aux amateurs de jeux d'arcade. Malheureusement, son destin en a voulu autrement. Faute d'avoir trouvé un distributeur, le projet, bien que finalisé à 100%, restera dans l'ombre. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur Nightmare Busters, vous pouvez aller visionner l'émission Retro Game Test où l'invité n'est autre que Chris, le programmeur du jeu. Il est temps pour nous de se dire au revoir. On se retrouve dans quelques semaines avec une sélection en béton. Laissons place à la démo Amiga Animation du groupe Phenomena. On se dit à très bientôt sur Rétrovision.